Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 11. Éphésiens 2, verset 11, et voici la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, en esprit. Et jusque-là, la parole de Dieu, nous avons regardez, au début de ces vacances et à d'autres moments, quand il y avait des absents, on a regardé ce passage, ce deuxième chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Paul écrit à des croyants et dans le début de ce chapitre, il leur rappelle la condition dans laquelle nous étions et dans la condition dans laquelle tout être humain est en dehors de Christ. Il est mort, spirituellement mort, incapable de faire quoi que ce soit pour Dieu, incapable de même venir. Il est spirituellement mort. Et ce qui se passe quand quelqu'un devient croyant, Paul en parle en termes de résurrection. Dieu nous a fait vivre avec Christ. Il nous a donné cette vie nouvelle avec Christ par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par quelque chose que l'on peut faire, ce n'est pas par les mérites, mais c'est par pure grâce. Et Paul nous rappelle dans ce passage que nous avons lu que notre foi en dehors de Christ, nous étions étrangers au peuple de Dieu, aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais Dieu fait grâce et quand il appelle quelqu'un à lui, il fait de lui non seulement une nouvelle création, une nouvelle créature, mais il nous fait aussi entrer dans de nouvelles relations. Nous devenons, comme il le dit au verset 19, nous devons des citoyens du royaume de Dieu avec les saints. Nous devenons les enfants de Dieu, avec des frères et des sœurs en Christ. Et nous faisons partie d'un édifice, un temple vivant dans lequel Dieu habite par son esprit. Et tout cela, tout cela est le résultat de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et nous en jouissons avec tous les croyants sur la surface de la terre et dans toute l'histoire. Mais ce matin, nous voulons nous focaliser sur le verset 19. Et Dieu voulant, nous verrons les versets 20 à 22 dimanche prochain. Verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Le premier point, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Dieu règne sur un royaume éternel Et maintenant qu'il nous a fait grâce en Jésus-Christ, il nous a fait entrer dans ce royaume et nous ne sommes plus étrangers. Et Paul commence par dire ce que nous étions par nature, des étrangers. Il utilise deux mots pour décrire notre condition dans ce verset. Il dit d'abord, nous étions des étrangers, un terme qui veut simplement dire qu'il parle de personnes qui appartiennent à une autre nation et qui viennent et qui traversent, qui visitent notre pays, mais qui traversent, on appelle cela des étrangers. Le deuxième terme, gens du dehors, est un terme qui décrit plutôt quelqu'un qui habite notre pays, mais qui n'est pas citoyen de ce pays. Et donc, Paul utilise les deux termes, mais si on a voyagé hors de France, ou hors de notre pays de naissance, pour ceux qui sont nés à l'étranger, mais si on a voyagé hors de France, on sait ce que cela veut dire, être étranger. On ne cadre pas avec le reste. On ne comprend pas toujours ce qui se passe autour de nous. On ne connaît pas la langue, on ne connaît pas la culture, la nourriture peut être étrange. Et les gens se comportent d'une façon que l'on trouve parfois difficile à comprendre. Paul dit que c'était notre situation avant de devenir chrétien. Nous n'étions pas les citoyens du royaume de Dieu. Comme nous avons lu au verset 12, nous étions privés du droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Dieu avait un peuple dans ce monde et nous ne n'en faisions pas partie. La communion entre Dieu et son peuple était une chose qui était inconnue pour nous. Et c'est encore la situation des incroyants aujourd'hui. Même quand on essaye de leur parler, parfois les gens se sentent mal à l'aise et ne comprennent pas la parole de Dieu. Cette parole leur paraît étrange. Et c'était notre cas avant de connaître Dieu. C'était le cas des Éphésiens, d'origine non-juive, avant que Paul n'arrive à Éphèse avec l'Évangile. Ces gens cherchaient à tâtons, ils se perdaient dans une idolâtrie loin de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour faire la paix avec les hommes en mourant sur la croix. Par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a envoyé cette vie nouvelle dans le monde. Il a prêché cette réconciliation, cette paix par les apôtres. Le résultat a été un changement énorme pour tous ceux qui ont cru. Par la foi en Jésus-Christ, ils sont devenus les concitoyens des saints. Et c'est ce qu'il souligne ici. Vous n'êtes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers si nous appartenons à Christ. Nous sommes devenus les concitoyens des saints. Paul était citoyen romain. Et un citoyen romain avait énormément de droits et de privilèges. Il avait le droit à la protection. Quelqu'un qui n'était pas citoyen romain n'avait pas ce droit. Vous vous rappelez de cette occasion où... quand la foule s'est élevée contre Paul à Jérusalem, que le commandant romain était sur le point de faire battre Paul, Paul a révélé qu'il était citoyen romain. Et immédiatement, les soldats ont baissé leur fouet et se sont retournés pour protéger Paul. Sa citoyenneté lui accordait ce droit d'être protégé, d'aussi de faire appel à César pour être jugé. Et c'est sans doute en attendant d'être jugé que Paul écrit cette lettre aux Éphésiens. Et de la même façon, être citoyen du royaume des cieux nous donne de bénéficier du royaume de Dieu. Les Romains jouissaient, comme j'ai dit, de la protection, de la provision d'un gouvernement, d'une justice de ce gouvernement. Aujourd'hui, en France, nous, citoyens français, on peut bénéficier de cette protection d'une liberté de travailler. Alors, quelles sont les bénédictions d'être citoyen du royaume des cieux? Les principaux bénéfices sont énumérés dans cette promesse de la nouvelle alliance en Jérémie 31. Jérémie 31, versets 31 à 34, passage qui est repris en Hébreux chapitre 8, où Dieu dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux ». Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Voilà les bénédictions de faire partie de ce royaume, d'avoir l'Éternel pour Dieu, de savoir que nos péchés sont pardonnés, que Dieu ne se souvient plus de nos iniquités. Et on pourrait décrire cela dans les différentes étapes de notre vie. Au début, c'est la justification. Dieu nous déclare juste, il nous voit juste, non pas à cause d'une justice que nous avons obtenue, mais à cause de la justice de Christ. Nous sommes considérés justes parce que Dieu nous a revêtus de la justice de Christ. On peut voir cela dans la croissance, dans la grâce. Il nous fait grandir. Et cela va se terminer dans la glorification. Ce sont des privilèges que le croyant obtient. Ce ne sont pas des objectifs à atteindre. Ce sont des bénéfices que le croyant obtient en tant que citoyen du royaume de Dieu. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a parlé du Père qui connaît le nombre exact des cheveux sur notre tête. Et par conséquent, si nous sommes citoyens de ce royaume, du royaume de Dieu, ce privilège nous libère de l'anxiété. Nous appartenons à un royaume dont le roi connaît absolument toutes choses. Absolument toutes choses. Même le nombre des cheveux sur notre tête. Nous faisons partie de ce royaume. Notre citoyenneté implique aussi que nous avons le Seigneur Jésus-Christ, notre bon berger, qui règne sur nous avec amour. Et nous nous réjouissons avec la parole de Dieu de savoir qu'au milieu de cette cité, de ce peuple, coule la rivière de l'Évangile qui donne la paix, la joie à tous ceux qui boivent de son eau. Psaume 46, versets 5 et 6. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. C'est intéressant de se rappeler quand Paul écrit cette lettre et qu'il parle de notre citoyenneté dans le royaume des cieux, de se rappeler où était Paul. Paul était à Rome, en prison ou assigné à résidence. Et autour de lui, il pouvait voir les grands édifices à la gloire de l'Empire romain. Et être citoyen romain, c'était le plus grand des privilèges. Si on n'était pas citoyen romain de naissance, on pouvait acheter cette citoyenneté, mais c'était quelque chose qui coûtait très cher. Paul, lui, était citoyen romain, éduqué dans la cité romaine de Tarse. Mais Paul ne se glorifie pas de cela. Ce n'était pas la source de son espérance, la source de sa confiance. Paul va écrire en Philippiens 3, verset 20, « Nous sommes citoyens des cieux. » Ou pour citer la seconde, il dit « Notre cité à nous est dans les cieux. » Et quand il écrit de Rome à ces chrétiens qui sont à Éphèse, et à nous ici ce matin, il veut qu'ils se glorifient dans cette réalité, eux aussi. Nous ne sommes plus des citoyens de ce monde. Même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus du monde. Nous sommes citoyens des cieux, citoyens du royaume de Dieu. Imaginez que Paul dise cela à un Romain moyen du 1er siècle. Pour un Romain, citoyen romain, on accédait à l'immortalité en participant à la grandeur de Rome. Mais voilà que Paul rejette tout cela pour annoncer le royaume d'un Messie galiléen. Et être chrétien, ça implique toujours un conflit, une opposition de royaume, le royaume de ce monde et le royaume de Dieu et de Jésus-Christ. Et on voit cela très clairement dans le procès du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez, Ponce Pilate s'est moqué à l'idée que Jésus puisse être un roi. Jésus n'avait pas d'accoutrement royal, d'habit royal. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas de trésorerie, n'avait pas de titre. Et en Jean 18, les versets 36 et 37, on voit le Ponce Pilate qui, de manière de moqueuse, dit au Seigneur Jésus-Christ, « Tu es donc roi ?» Et Jésus lui répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume du Seigneur Jésus-Christ est céleste et non terrestre. Cela ne nous rend pas inférieur, mais supérieur. Au-dessus de tous les royaumes de la terre, il y a le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Si les Césars règnent sur les corps, le Seigneur Jésus-Christ règne sur les âmes. Si les rois de ce monde règnent sur les affaires de ce monde, le Seigneur Jésus-Christ règne sur l'éternité. C'est pourquoi Paul n'est plus impressionné par la gloire de l'Empire romain. Et c'est pourquoi il se glorifie seulement dans le royaume de Dieu, dans lequel il est devenu citoyen par la foi en Jésus-Christ, par grâce. Le verset 19 nous montre aussi une des différences entre le royaume terrestre et le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Vous êtes concitoyens des saints ». Ça parle de la nature de ce royaume. Le royaume de Dieu est un royaume de paix, un royaume d'amour, d'harmonie. C'est un royaume qui est saint, dans lequel chaque citoyen devient un avec les saints. Alors ce terme « saint » ne fait pas référence à une catégorie limitée de super-héros spirituels. Non, c'est un terme qui décrit tout croyant, tout le peuple de Dieu, ceux qui ont été séparés pour Dieu, ceux qui ont été mis à part pour Dieu, ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est un royaume d'union sainte, d'amour saint, de mission sainte. Un commentateur écrit ceci, quand Paul écrit ces mots, le royaume de Rome était à l'apogée de son extension territoriale et de sa gloire. Rome dominait le monde. Les armées romaines assuraient la paix et la justice. Les routes romaines reliaient toutes les parties éloignées de l'Empire. Rome avait tenu pendant des siècles et l'on pensait que Rome pouvait tenir pour des milliers d'années encore. Mais Paul regardait Rome et la voyait non comme un grand royaume uni, mais comme une force qui était imposée sur des groupes antagonistes. Les riches et les pauvres, les libres et les esclaves, les hommes et les femmes, les juifs et les non-juifs. À la place de Rome, Paul voyait une nouvelle humanité créée par Dieu lui-même qui dépassait toutes ses frontières. Ce royaume était destiné à grandir et à infiltrer toutes les nations, attirant toutes sortes de personnes. C'est un royaume qui ne peut être ni ébranlé ni détruit. Où est l'Empire romain aujourd'hui? Où sont tous ces empires qui se sont apparus, qui ont disparu depuis le temps de l'apôtre Paul? Quelle est la destinée de tout empire, de tout royaume terrestre, sinon de venir et de disparaître, comme Dieu le désire? Comme l'écrit l'apôtre Jean en 1 Jean 2, verset 17, « Le monde passe et sa convoitise aussi ». Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Paul savait cela quand il écrivait cette lettre depuis Rome. Si seulement Paul avait renié le Seigneur Jésus-Christ, s'il avait dilué le message de l'Évangile pour se mélanger avec le monde, il aurait pu garder tout ce que sa citoyenneté romaine pouvait lui offrir. Mais il a vu avec une meilleure vision les réalités de la foi. En 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, il écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous sommes devenus les citoyens du royaume de Dieu. » Ce n'est pas le seul résultat de notre salut en Jésus-Christ. Le deuxième grand point, c'est que nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. On peut être tous membres du même pays, mais pas membres de la même famille. Et donc Paul va souligner que la relation est encore plus personnelle avec Dieu. Nous ne sommes pas seulement citoyens faisant partie de la même nation, de ce même peuple, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Une relation qui est bien plus intime, bien plus intense. Tout comme le sang unit une famille, l'Esprit de Dieu unit tous les croyants comme membres de la famille de Dieu. Une chose que cela veut dire, c'est que cette relation n'est que pour ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Jésus a bien dit en Jean 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc la nouvelle naissance est quelque chose d'indispensable. Le royaume de Dieu est une famille. Et comme une famille est définie par les liens du sang, la famille de Dieu est liée par un lien spirituel, l'Esprit de Dieu qui habite dans chacun des cœurs. Certaines personnes aujourd'hui parlent de Dieu comme étant le Père de tous. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas le Père de tous. Il est le Père de ceux qui sont ses enfants en Jésus-Christ. Dans le début de l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, les versets 12 et 13, nous lisons, en parlant de Christ, en parlant de la parole qui est Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le fait que Dieu a fait de nous les gens de sa maison, cela en dit beaucoup au sujet de son merveilleux amour pour nous. Si Dieu s'était contenté de simplement ne pas nous condamner comme pécheurs, cela aurait suffi de le louer pour l'éternité. Nous méritons l'enfer et Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Et déjà ça dépasse notre entendement. Martin Lloyd-Jones, un prédicateur gallois du XXe siècle qui a prêché une longue série sur cette lettre aux Éphésiens, écrit ceci. Cela aurait été une chose remarquable si Dieu s'était contenté de ne pas nous laisser dans notre état de péché et de ne pas nous punir. Ça aurait été remarquable. Mais il continue, le salut de Dieu ne s'arrête pas là. Il nous élève à cette dignité d'enfant. Il nous adopte dans sa propre famille. Imaginez que vous vous présentiez devant un juge qui ne fait jamais de compromis pour un crime que vous avez commis. Toutes les évidences vous condamnent. Vous n'avez aucune défense. Mais alors qu'on est sur le point de lire votre sentence, le juge vous dit qu'il vous aime, que son propre fils a accepté de subir la sentence à votre place. De plus, le juge veut que vous l'accompagniez chez lui, que vous preniez son nom, que vous deveniez son enfant, que vous entriez en relation avec d'autres qui ont bénéficié de ce même amour. Qu'est-ce que vous diriez de cela? Vous seriez émerveillé. Émerveillé devant cette grâce. Vous aimeriez ce juge de tout votre cœur. C'est ce que Dieu a fait dans son amour. Par le sacrifice de son Fils, il fait de nous les enfants, les gens de sa maison. Il nous adopte dans sa famille. C'est de cet amour que le Seigneur Jésus parle dans la parabole du Fils prodigue. Vous connaissez l'histoire en Luc chapitre 15. Le Fils est tombé dans le péché, il a dilapidé tout ce que le Père lui avait donné en héritage, dans une vie d'immoralité. Mais quand il est revenu à lui, quand il s'est repenti, qu'il ait commencé à revenir à la maison, le Père l'a vu de loin. Et Jésus dit ce qu'il se passe dans les versets 20 et 24. Il se leva Le fils se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-la. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà la célébration qui attend tout pécheur qui, par la grâce de Dieu, vient demander pardon à Dieu et vient regarder au Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu se réjouit. C'est une famille qui se réjouit du salut des pécheurs, qui se prépare maintenant pour une éternité ensemble dans la lumière de l'amour de Dieu. Les bénédictions d'être gens de la maison de Dieu sont encore plus grandes que les bénédictions d'être citoyens du royaume de Dieu. Un roi doit pourvoir aux besoins du peuple, mais un père est beaucoup plus concerné pour ses enfants. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès auprès du Père. Nous avons accès auprès de Dieu. L'accès est ouvert. Nous avons le droit de venir à Dieu dans la prière, de lui présenter nos besoins. Matthieu 6, verset 8, le Seigneur dit ceci, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et Matthieu 7, verset 11, il dit, « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et cela va aller en croissant. Comme Paul l'écrit en Romains 8, verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Dieu nous a fait entrer dans cette intimité avec lui. Ce qui me frappe toujours, c'est de penser que aucun ange, une créature pourtant parfaite, aucun ange ne peut appeler Dieu Père. En Christ, nous le pouvons. Et nous avons cette relation. Nous avons cette intimité avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc des citoyens du royaume de Dieu et des enfants de la maison de Dieu, des gens de la maison de Dieu. Voilà ce que nous sommes en Christ. Voilà une description de notre état de notre position si nous sommes en Christ, citoyens du royaume de Dieu, gens de la maison de Dieu. Ce n'est pas ce que nous étions par nature. Nous étions des étrangers, nous étions les gens du dehors, nous ne faisions pas partie de cette famille. Nous n'avions pas de vraies réponses aux problèmes de la vie, encore moins au sujet de l'éternité. Mais dans son amour, Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour être notre paix, pour nous réconcilier avec Dieu en souffrant le châtiment à notre place et pour nous amener dans cette communauté de paix et d'amour. Si nous sommes à Christ, Dieu veut que nous réalisions que ce sont là nos privilèges, nos bénédictions. Trop souvent, on ne comprend pas les implications de ce que cela veut dire être chrétien. On ne réalise pas quelle est notre position. Mais si je puis utiliser ce langage, quand on sera dans l'éternité, on sera surpris par l'attitude que l'on a eue sur terre, par cette fixation sur les choses de ce monde, les doutes que nous avons au sujet de l'amour de Dieu. Trop souvent, les gens pensent à ce qu'ils doivent abandonner s'ils deviennent chrétiens. Et c'est vrai que suivre Christ implique d'abandonner certaines habitudes, certaines relations. Cela implique certainement de renoncer au péché que nous aimions par le passé. Mais l'homme a été créé pour Dieu. pour vivre dans une relation avec Dieu. Et sans Dieu, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de paix. L'homme a toujours faim, toujours soif d'un sens à la vie, d'appartenance. Mais par la foi en Jésus-Christ, Dieu répond à ses besoins. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de nos péchés, mais le pardon de nos péchés n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Le Seigneur Jésus-Christ nous sauve pour que nous devenions les citoyens des cieux, les gens de la maison de Dieu. Seul Dieu en Jésus-Christ peut nous donner une maison où nous allons habiter éternellement. Et personne ne peut la détruire. Quand nous réalisons que c'est cela que nous avons, que c'est cela que nous sommes, on n'a pas besoin de nous apprendre comment vivre. Dieu nous appelle simplement à être ce qu'il a fait de nous en Christ, à savoir les concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Il nous appelle à le servir dans son royaume en tant que citoyens, concitoyens avec d'autres saints, et à nous aimer les uns les autres comme des gens de sa maison, comme des enfants de Dieu, comme les frères et sœurs en Christ qui partagent son amour. Paul écrit ainsi donc, « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Que Dieu nous aide à comprendre ces réalités, qu'il nous aide à les vivre, à nous réjouir dans ces privilèges que nous avons en Christ, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.